Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
So easily moved. You so easily abused. So fade, yeah.
C'est déjà la troisième partie de Soundtrack ce matin et je vous l'avais annoncé, hein, donc une spéciale ici consacrée à Ben Harper et c'est une spéciale qu'on partage avec Laurent Rippy. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent.
Et c'est en prémisse aussi du concert qu'il va donner, donc ce sera le 7 juillet chez nous, ce sera à l'OM de Serein et bienheureux ceux qui ont leur sésame puisque ce concert est déjà sold out, je pense que ça a été
assez rapide.
Ouais. Assez rapide, voilà. Alors ici on a écouté Fade It pour ouvrir donc cette séquence, c'est entrée d'emblée dans la singularité de cet artiste qui est Ben Harper. C'est une guitare qui ressemble à nul autre, une voix qui porte le blues du Delta avec la sensibilité du rock des années 90.
Oui, tout un programme et ce Fade It qu'on vient d'écouter, c'était extrait de l'album The Will to Live, son troisième album sorti en 97 et produit avec Jean-Pierre Plunier. C'était une balade mélancolique mais qui n'est pas douce ou lisse. Hein. Elle alterne entre des passages assez dépouillés et des explosions de puissance qui me rappelle un petit peu Led Zeppelin d'ailleurs, ouais. Et qui arrive là où on ne les attend pas spécialement. Ce son de guitare qu'on vient d'entendre, cette résonance creuse à l'ancienne, c'est la fameuse Wesenborn, Laurent.
Ah oui, Wesenborn, ce son, ça se joue principalement en slide, et il y en a beaucoup évidemment qui utilisent ça, je pense à Ron Wood, et notamment aussi quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est David Gilmour. Donc voilà, c'est un instrument qui définit bien Ben Harper, qui est quand même un as en slide aussi. Hein.
Ouais, clairement, en fait c'est une guitare hawaïenne, fabriquée au début du XXe siècle par Herman Wesenborn, d'où son nom, en bois de koa, une essence aujourd'hui assez qui est protégée.
Comme beaucoup d'ailleurs aujourd'hui.
Oui, c'est le genre de matière, c'est couru. Alors le manche et le corps ne font qu'une seule chambre de résonance, on la joue posée, donc comme vous venez de le dire, à plat sur les genoux avec une barre d'acier, et le bois, séché depuis plus d'un siècle, produit cette résonance bien particulière qu'aucun instrument moderne ne peut reproduire. Et Ben Harper le dit lui-même, cet instrument est totalement irremplaçable, Laurent.
Et cet instrument, précisément, Ben Harper l'a découvert très jeune.
Effectivement, dans le magasin de musique qui appartenait à ses grands-parents, à Claremont, dans la banlieue de Los Angeles. Donc c'est le Claremont Folk Music Center. Ce n'était pas un commerce comme bien d'autres, c'était un espace de rencontre, un lieu de passage où on défilait. Pas mal de très très grands noms, comme on parle de noms du folk, évidemment, comme Leonard Cohen ou encore Jackson Browne. Donc petit Ben Harper croise quand même des noms célèbres.
Quoi,
ouais. Et Harper, donc enfant, il côtoie des instruments qui viennent un petit peu de partout dans le monde. Il apprend donc à distinguer ce que c'est un saz. Il reçoit donc ses premiers enseignements guitaristiques de la part de sa maman. Ellen Harper, elle-même guitariste et chanteuse. Donc voilà, il baigne en tout cas dans un milieu qui est plus que, j'ai envie de dire, plus qu'essentiel et plus que qui le nourrit profondément.
Ouais. Un petit peu à l'instar d'un Joe Bonamassa, par exemple, il a été vraiment, c'est une famille qui était entièrement baignée dans la musique.
Oui, son père jouait des percussions, sa grand-mère Dorothy, elle pratiquait la guitare et le dulcimer. Et dès l'âge de 7 ans, en fait, Ben Harper a une guitare entre les mains. Ses véritables influences premières se construisent donc dans ce contexte enfant. C'est Jimi Hendrix, le premier artiste dont il écoute et joue les albums de façon autonome. Voilà, il veut recopier ce que Jimi Hendrix faisait. Et c'est surtout l'album Are You Experienced qui lui relève ce que peut être un véritable solo de guitare. Je me rappelle, je l'avais eu en interview et il m'avait expliqué ça. Et alors l'autre influence dont il m'avait parlé, c'était Bob Marley, qu'il considère bien plus que comme un simple musicien. Pour lui, c'est une figure dont la capacité à faire passer un sentiment universel reste pour lui un véritable modèle absolu. Et c'est vrai qu'on retrouve cette dimension spirituelle, clairement, dans sa musique.
Ouais, cette musique, on vous en propose ici une bouffée, un morceau que vous connaissez déjà toutes et tous, ça je pense. Diamonds on the Inside.
I knew a girl, her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. She had diamonds on
sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why the first ask is the last to give every time. What you say
Diamonds on the Inside, Ben Harper and the Innocent Criminal. Et donc ça, c'est le titre éponyme de l'album qui était sorti en 2003. Ici, on est 6 ans après, hein, avec The Will to Live. Et quelque chose qui a changé aussi dans le son.
Bah oui, l'album Diamonds on the Inside, c'est à la fois, bah, j'ai envie de dire, son album le plus lumineux et le plus riche en termes d'arrangement. La moitié des morceaux sont acoustiques. Et ce morceau, hein, la plage titre, donc, illustre bien cette atmosphère. Ce qui frappe aussi, c'est la collaboration avec Ladysmith Black Mambazo. C'est le groupe sud-africain, hein, dont la présence dans cet album renforce cette dimension, bah, spirituelle qu'on évoquait. La chorale aussi, hein, ils proposent des chœurs très très puissants. Ouais. Et les paroles de Diamond on the Inside, eh bien, vont exactement dans ce sens. C'est l'idée que finalement, chaque individu porte en lui une lumière, donc ces lumières, ce sont les diamants, et malgré ce que le monde peut faire subir à tout le monde, eh bien, ces diamants et cette lumière sont bien là, et voilà, c'est une conviction très profonde chez Harper que la musique peut être quelque chose qui nous fait nous élever et nous fait survivre à des éléments, à des événements qui peuvent être tragiques.
Et pour paraphraser les Dupont, je dirais même plus, on pourrait entendre même déceler des influences qui débordent largement du blues.
Oui, hein, clairement, les critiques de l'époque, lorsque l'album sort en 2003, donc pour ce Diamonds on the Inside, ils ont trouvé des résonances avec Bob Dylan pour l'écriture, Bob Marley, on en parlait pour le côté la ferveur, ouais. Mais Harper est très précis là-dessus, il ne cherche pas à ressembler à ses influences, pas question ici de faire des copier-coller, il cherche à absorber celle-ci pour en faire quelque chose, bah, qui lui appartient vraiment. Il a dit un jour qu'il serait fier de cet album, hein, à la sortie de cet album, 10 ans plus tard. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait totalement raison, tant cet album est considéré comme un classique, bah, aujourd'hui, près de 25 ans plus tard.
Ouais, et cet album marque aussi un moment particulier dans sa relation avec la spiritualité.
Alors pour Bernard Port, la spiritualité n'a jamais été désincarnée. Elle s'ancre dans le quotidien, son quotidien, dans le refus total de la violence, dans la conviction que la musique a le pouvoir de transformer des notes en émotions palpables. Il dit que chaque geste de la vie, le fait de se brosser les dents le matin, le fait de monter sur une scène, tout ça devrait être une forme de prière, selon lui. Dans ce rapport à la musique, on retrouve d'ailleurs cette idée qui était celle de Jimi Hendrix, qui voyait la musique comme un langage universel qui permettrait un jour de supprimer les frontières. C'est une magnifique image.
Effectivement.
Ça n'a pas fonctionné, pas encore. Espérons que ça puisse fonctionner un jour. Et ou encore même, ça se rapproche de cette vision de Bob Marley également. Et donc, c'est dans cet esprit, hein, cet esprit de valeur extrêmement positive que ce titre suivant est né.
Un titre qui parle déjà, rien que dans le titre, au rastafarisme, puisque ce morceau, c'est Jah Work.
Yeah.
Jawork, qui est aussi tiré donc de l'album The Will to Live. Évidemment, donc, hein, comme je le disais, ça peut parler aux rastafariens, puisque Jah, c'est quand même le dieu du rastafarisme, ce fameux lion avec sa crinière. Et donc, la dimension reggae de Ben Harper, là, est à son état le plus pur.
Ah oui, c'est l'un des titres de cet album dont il est d'ailleurs le plus fier. Et l'influence de Bob Marley y est totalement directe, assumée. Jawork, donc, c'est une déclaration. Vivre au service de quelque chose de plus grand que soi, accomplir donc ce travail, de Jah. Ouais. Le rythme reggae porte les paroles comme une sorte de prière en marche. Et ce qui est intéressant avec Ben Harper, c'est qu'il n'a jamais senti de contradiction, c'est intéressant, hein, entre le blues et le reggae. Pour lui, le gospel et le blues sont la même musique, chantée sous des toits différents. Et à propos de cette influence de Marley, eh bien, je me souviens d'une prestation absolument incroyable de Ben Harper à Werther. C'était en 2006, si je ne me trompe pas. Je me rappelle que, voilà,
20 ans.
Ouais, ça remonte. Hein. Et vous savez, c'est ce moment où on passe d'une scène à l'autre et parfois on est attiré par quelque chose. Je me rappelle avoir été très très attiré par la scène où Ben Harper jouait parce qu'il avait enchaîné ce morceau Jawork avec une reprise d'Exodus de Marley complètement habité. C'était incroyable. Je sais pas, on sentait. C'est presque comme si Bob Marley était sur scène, quoi. Il y avait quelque chose de très très fort sur la scène ce soir-là.
Et donc, Jawork est devenu un pilier, là aussi, de ses concerts.
Ah oui, c'est devenu un classique aussi de ses sets acoustiques, un moment de recueillement partagé avec le public. C'est aussi à cette époque qu'il va rencontrer Taj Mahal, le vieux bluesman, hein, qu'il a pris sous son aile et qu'il a invité à tourner avec lui. Et donc, ce mentor va être quelqu'un de décisif dans sa carrière. C'est lui qui lui a appris les réalités de la scène et ancré sa conviction que le blues acoustique est la source de toute la musique américaine moderne, et ce, du rock, au rhythm and blues, au blues, jusqu'au rap.
Toutes ces extensions, etc. Ouais. Alors ici, on va remonter un petit peu plus dans le temps avec Walk Away. C'était un extrait du premier album, hein, donc Welcome to the Cruel World, qui était sorti en 1994. Ce sont là vraiment les débuts de Ben Harper.
Oui, et c'est important d'écouter ses débuts, hein, dans cette séquence, parce que ce Walk Away dit quelque chose sur ce que sont finalement ces origines de Ben Harper, et ces origines qu'on ne comprend pas spécialement en écoutant les albums suivants. À cette époque, au tout début, donc, il n'avait pas encore réfléchi vraiment aux structures des titres, il n'avait pas encore ce côté professionnel qu'il va développer par la suite. Tout n'était pas encore millimétré et calculé. Il composait vraiment par instinct pur. Sa voix, à ce moment-là très claire, avec ce falsetto qui évoquait parfois Aaron Neville, portait des paroles qui étaient parfois radicalement simple. Hein. Dans cette chanson, il dit tout simplement, parfois, il faut juste partir, s'extraire d'une situation, d'une relation difficile, et ce, tout simplement pour se préserver.
Et musicalement, c'est l'essentiel, c'est la voix et la guitare.
Oui, en fait, l'instrumentation est minimaliste ici, la voix Enzenborn et lui, rien d'autre, et cette combinaison suffit à tout dire. Il suffit, il a souvent répété en fait, hein, qu'il ne serait plus lui-même sans sa guitare, que les deux sont indissociables. Et ce morceau est vraiment le prototype de la balade folk blues qui allait devenir parce qu'il a plusieurs marques de fabrique, hein, visages, en tout cas une de ses grandes marques de fabrique.
Soundtrack.
Sun again, and means another day without you, my friend. And it hurts me to look into the mirror at myself, and it hurts even more to have to be with somebody else. And it's so hard to do and so easy to say. Sometimes you just have to walk away, walk away. So many people to love in my life. Why do I worry about one? But you put the happy in my nest, you put the good times into my fun, and it's so hard to do and
so easy to say. Sometimes, sometimes you just have to walk away, walk away. And a head for the no. We've tried the goodbye so many days. We walk in the same direction so that we could never stray. They say if you love somebody, then you have got to set them free. But I would rather be locked to you than live in this pain and misery. They say time will make all this go away. But it's time that has taken my tomorrows and turned them into yesterdays. And once again that rising sun is dropping on down. And once again you, my friend, are nowhere to be found. And it's so hard to do and so easy to say. But sometimes, sometimes you just have to walk away, walk away, and head for the door. You just walk away.
Walk away donc à l'instant, et ici avant de refermer, de clore cette séquence, il y a une étape aussi dans sa vie qu'on ne peut pas passer sous silence, parce qu'on évoquait déjà ici Taj Mahal, mais il y a quand même une longue collaboration avec un autre fameux bluesman.
Oui, notamment le bluesman Charlie Musselwhite, sur lequel on va revenir dans quelques instants, mais aussi on va parler de sa famille, parce que en 2014, Ben Harper va enregistrer un album tout à fait mémorable qui s'appelle Childhood Home, la maison de l'enfance, tout simplement.
Oui.
Et il enregistre, et ça c'est incroyable, avec Helen Harper, dont on parlait tout à l'heure.
Sa maman,
ouais. Exactement. C'est un projet qu'il évoquait déjà depuis 2003, donc ça a pris un petit peu de temps pour se mettre en place. Et l'idée de cet album, c'est de retourner à la source, retourner à la femme qui lui a mis la guitare entre les mains. Et cet album, c'est une conversation entre ces deux musiciens, liés par le sang et par une histoire, qui commence donc dans ce super magasin de folk des grands-parents. Toute cette histoire est racontée dans l'album, et il a toujours dit qu'il reviendrait un jour s'occuper de ce magasin. Il n'a pas encore eu le temps, mais c'est vrai que c'est une institution familiale, et c'est vrai qu'on, généralement quand on descend d'une tradition comme ça, on a envie de s'occuper de ce genre de commerce, surtout un commerce comme ça, c'est incroyable.
C'est mieux ça que de reprendre les affaires, d'un expert comptable.
C'est différent, c'est plus musical, on va dire, et il y a quelque chose de profondément cohérent chez Ben Harper par rapport à cette fidélité profonde à ses origines familiales.
Et cette même fidélité se retrouve aussi dans sa relation avec le chanteur et musicien de blues, donc Charlie Musselwhite.
Exactement, leur première rencontre remonte assez loin, donc en 1993, au club Sweetwater, lors d'un concert où Johnny Hooker avait invité donc le jeune Ben Harper à assurer la première partie, ce qui est déjà,
pas mal.
Hein. Et ce soir-là, Musselwhite est présent, ils vont se croiser, mais Harper, à ce moment-là, est conscient de l'abîme qui le sépare encore de ce grand bluesman qui a joué quand même, rappelons-le, aux côtés de Muddy Waters, ainsi qu'aux côtés donc de Johnny Hooker. Alors, Ben Harper va attendre. Il va attendre de mûrir. Il va attendre 15 ans, avant de se sentir digne de s'asseoir à la même table que Musselwhite pour commencer à travailler sur cet album. Donc c'est assez intéressant aussi, ça montre le côté très humble de Ben Harper. C'est qu'avant, il est trop intimidé, fait de collaborer avec un monstre sacré comme ça, il lui faut le temps de se dire, ok, maintenant je peux.
Ouais, et 15 ans d'attente, c'est même plus que de l'humilité ou même plus que de la modestie.
Bah, c'est une forme de respect absolu, et quand ils passent enfin tous les deux à l'enregistrement, eh bien, tout va se passer de façon très naturelle, très organique. Hein. Muscle White apporte cette décennie d'expérience, un jeu d'harmonica d'une profondeur rare, et Harper, lui, écrit des textes spécifiquement taillés pour la voix et l'instrument de son aîné. Il dit lui-même d'ailleurs qu'il s'est montré impitoyable envers lui-même pour être à la hauteur. Donc voilà, il se challenge vraiment. Ce n'est plus le jeune homme naïf de Welcome to the Cruel World. Ici, lorsqu'il travaille avec Muscle White, c'est un musicien qui accepte de confronter les zones les plus sombres de son existence, et ce, pour les transformer en blues. Parce que voilà, il avait besoin de vivre, il avait besoin d'avoir de l'expérience pour pouvoir parler le blues.
Et si je ne me trompe pas, vous aviez eu donc l'occasion de voir Ben Harper aussi avec Charlie Musselwhite, c'était il y a quelques années.
Ah oui, effectivement, c'était à la Madeleine, à Bruxelles, un contexte donc plutôt intimiste. Et franchement, c'était excellent, les deux artistes étant extrêmement généreux. On a même eu droit à un moment hors du temps, et ça c'était fou, hein, où Ben Harper s'est écarté du micro pour chanter un passage en voix directe, comme ça, sans amplification. C'était tout simplement magique.
Et ici à Classique 21, on garde aussi le souvenir d'un personnage absolument charmant lorsqu'il était venu au sommet de l'Atomium. C'était F.E., Éric Laforge, hein, qui avait fait son interview, et il a été véritablement très accessible pour tout le monde. Il a fait des photos, il a discuté, vraiment un monsieur absolument charmant, un très grand monsieur, j'ai envie de dire. Et donc, on rappelle bien entendu, hein, ce concert qui est déjà sold out, ceci dit, donc le 7 juillet à l'OM de Serein. Mais apparemment, il y aurait une liste d'attente sur laquelle on peut aussi s'inscrire.
Voilà, il y a peut-être un moyen quand même d'essayer d'y participer. En tout cas, ça risque d'être un très très grand moment.
Et vous y serez, bien entendu.
Bien sûr.
Merci Laurent, je vous souhaite un bon dimanche, et une très bonne fête de Pâques également. On se retrouvera dimanche prochain. Bloodside Out, qui donc vient refermer cette spéciale consacrée à Ben Harper ce matin en compagnie de Laurent Riepy, et Ben Harper qui sera donc au mois de juillet à l'OM de Serein. Mais comme on le précisait durant la séquence ici, bah, c'est déjà complet.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.